Pour le message de ce matin, je vous invite à ouvrir de nouveau vos Bibles dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 4. La lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, pour voir ces dons dont parle l'apôtre Paul, surtout à partir du verset 11. Vous savez, on a commencé depuis quelque temps à étudier ce chapitre 4. Je vous ai dit que ce chapitre est comme un bateau chargé jusqu'au bord. Il a beaucoup de choses à nous dire pour chacun de nous et pour la vie de notre Église. Et donc, je voudrais ce matin voir ces dons dont Paul parle au verset 11, ces serviteurs de la parole que le Seigneur a donnés à l'Église. Après avoir parlé des dons que le Seigneur accorde aux uns et aux autres, l'apôtre Paul nous dit ceci: « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteur et enseignant. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. » Alors, frères et sœurs, parmi la grande variété de dons dont nous parle la Bible, et l'apôtre Paul vient de rappeler ces dons dans ce chapitre, je pense qu'il distingue ceux qui sont structurels, comme je le disais la dernière fois, de ceux qui enrichissent autrement la vie de la communauté chrétienne. Il parle ici des serviteurs que le Seigneur a donné à l'Église dès le départ. Et le Seigneur l'a fait dès le départ pour l'établissement, pour l'expansion de son Église dans le monde. Ces serviteurs ont été à la base de l'Église naissante et ont incontestablement joué un rôle fondamental, un rôle essentiel, un rôle fondateur essentiel pour le projet de Dieu, dans le projet de Dieu pour son Église. Ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs et enseignants, nous dit-il. Ces ministères qui structurent l'Église sont liés au service de la parole, car l'Église naît et vit de et par l'annonce de la parole de Dieu, la proclamation de la parole de Dieu enseignée. Si, comme l'apôtre Paul le dit ici, ses serviteurs sont des dons, des cadeaux que le Seigneur a fait à son Église, ça vaut la peine de voir pourquoi sont-ils si essentiels que ça à l'Église et de voir aussi quel est le rôle de chacun. D'abord, les apôtres. Il faut d'abord dire, je vais juste ce matin traiter les deux premiers, les apôtres et les prophètes, et on laissera les autres pour une autre occasion. D'abord, les apôtres, donc, il faut d'abord dire que le mot apôtre dans la Bible signifie envoyé. Envoyé. Il est employé des dizaines de fois, au moins 80 fois dans le Nouveau Testament, dans des 3 ou 4 sens différents. D'abord, j'ai remarqué que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous encourage, il emploie ce mot, et il nous encourage à fixer nos yeux sur le Christ, sur Jésus. Et il nous dit, Jésus, je cite, « apôtre et souverain sacrificateur de la foi ». Apôtre et souverain sacrificateur de la foi. Donc, il est employé au moins une fois pour le Seigneur Jésus-Christ. Il semble être utilisé aussi au moins une fois pour tous les chrétiens. Lorsque Jésus a dit au chapitre 13 de l'Évangile selon Jean, « en vérité, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni celui qui est envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. » C'est le mot grec « apostolos », apôtre, qui est employé ici pour celui qui est envoyé. Donc c'est comme ça que les traducteurs traduisent, celui qui est envoyé. Et il est employé donc dans ce sens-là, celui qui est envoyé. Cela signifie que tout chrétien, chaque disciple de Jésus-Christ, est un envoyé dans le monde. Un envoyé dans le monde. Il est, comme dit un autre passage de l'apôtre Paul, un ambassadeur pour Christ dans la société, là où il vit, pour y témoigner de Jésus-Christ et participer ainsi à la mission apostolique de l'Église. J'aurais pu dire un ambassadeur plénipotentiaire, n'est-ce pas, si on pense à Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le Seigneur Jésus disait dans sa prière sacerdotale, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Qui ? Les disciples, c'est-à-dire nous les chrétiens, ils nous envoient dans le monde. Dans ce sens-là, nous sommes donc tous des apôtres, n'est-ce pas ? Nous sommes tous des apôtres, des envoyés du Seigneur dans le monde. Or, l'apôtre Paul précise ici dans cette lettre, dans ce passage, que le Seigneur n'a donné que certains comme apôtres. Que certains comme apôtres. Cela veut dire que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il utilise ce mot ici dans ce passage. D'autre part, nous constatons que les églises du Nouveau Testament envoyaient des messagers un peu partout, comme missionnaires, par exemple, pour implanter des églises, où ils envoyaient des frères et des sœurs pour accomplir telle ou telle tâche ailleurs que dans leur église, au sein des églises qui existaient. C'est le cas, par exemple, de Barnabas, de Silas, de Timothée, de Tite, d'Épaphrodite, compagnons de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, des chrétiens qui ont porté main forte au ministère de l'apôtre Paul et qui étaient aussi désignés sous ce vocable. Je ne veux pas polémiquer ce matin, mais il y a même, semble-t-il, une femme dans la Bible qui est appelée apôtre. Lorsque l'apôtre Paul, dans le dernier chapitre de la lettre aux Romains, verset 7, dit « Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes, ils ont été mes compagnons de captivité, ce sont des apôtres remarquables qui se sont même convertis au Christ avant moi. » C'est vrai que les traductions, les divers traducteurs de la Bible ne traduisent pas ce verset tous de la même manière. Mais c'est en tout cas de cette manière-là que Chrysostome, considéré comme un père de l'Église, n'est-ce pas, qui a vécu autour des milieux des années 300, a traduisait ce verset. Et les traducteurs de la semeur, de la parole de vie, de la Bible de Jérusalem, etc., ont choisi de traduire ce verset de cette manière-là. C'était donc des apôtres, des envoyés des églises, n'est-ce pas ? Comme nous aujourd'hui, notre Église a aussi au moins deux familles qui ont été envoyées, hein, au Cameroun, la famille Turquet et la famille Perkins, n'est-ce pas, qui ont été envoyées au sud du Massif central. Ce sont nos apôtres à nous, nos envoyés pour accomplir une mission. Ce mot fait surtout référence aussi au petit groupe particulier d'apôtres de Jésus-Christ, les douze, comme on les appelle. Ceux que Jésus avait choisis personnellement pour leur confier une mission spéciale, un ministère particulier. Ceux qui ont été ensuite des témoins de sa résurrection, à part Judas Iscariote, n'est-ce pas, qui s'est suicidé avant parce qu'il avait trahi le Christ. Et quand il s'est rendu compte, il n'a pas supporté d'assumer ce qu'il avait fait, cette trahison. Et lorsqu'il a fallu choisir un apôtre pour remplacer Judas, il y a eu un double critère qui a été avancé. Nous le trouvons dans Actes chapitre 1, verset 21, où nous lisons « Nous devons choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous ». Depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de la résurrection. Il fallait donc qu'il ait fait partie de ceux qui ont accompagné le Christ et les apôtres et qu'il ait été témoin de la résurrection de notre Seigneur. Matthias remplissait ces conditions. Et donc, il a été choisi comme apôtre à la place de Judas. Ce sont eux, les apôtres, permettez-moi de dire maintenant avec un grand A, que Paul mentionne ici dans ce passage. Il a donné les uns comme apôtres. Je pense qu'il fait référence vraiment à ces apôtres-là. Et en tête de liste, dans 1 Corinthiens 12, 28, Il utilise des mots assez forts pour parler d'eux. Dieu a établi dans l'Église, c'est ce qu'il dit. Il emploie un verbe grec, titémi, très fort. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ce sont eux, ces apôtres-là, avec un grand A, qui ont été investis de l'autorité même du Seigneur pour annoncer l'Évangile partout, pour appeler les gens à la repentance et à la conversion, pour enseigner, pour édifier, pour rassembler les chrétiens en communauté, en Église. L'Église a été, pourrait dire, fondée par les apôtres et repose sur le témoignage qu'ils ont rendu à Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire ce matin que leur parole est parole de Dieu. La parole des apôtres que nous avons ici dans l'Écriture est parole de Dieu. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » Et un peu plus loin dans cette même lettre, il dit, « Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. » Une chose est sûre, personne aujourd'hui ne peut dire, comme les apôtres, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Les apôtres étaient les seuls à pouvoir le dire, n'est-ce pas ? Ils étaient les seuls. Ce sont eux donc qui ont joué un rôle fondamental, irremplaçable au début du christianisme. Ils ont été ce que nous pouvons appeler donc les ministères structurels de l'Église. Et c'est pour cela que dans cette même lettre aux Éphésiens, chapitre 2, l'apôtre Paul, en utilisant l'image de la construction d'un édifice pour parler de l'Église, il dit ceci, « Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement posé par les apôtres et prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. » Ils sont donc avec Jésus-Christ fondation de l'Église. Fondation de l'Église. Et au chapitre 3, cette même lettre, en parlant du projet de Dieu en Jésus-Christ, il dit, « En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres et ses prophètes qu'il a consacrés à son service. » Donc, les apôtres dont on parle ici dans ce passage, ce sont ceux qui ont été choisis directement par le Seigneur, qui l'ont accompagné dans son ministère, qui l'ont vu ressusciter, qui ont été les dépositaires de la promesse de l'Esprit-Saint et de l'ordre missionnaire, qui ont eu un enseignement lié à la fondation de l'Église chrétienne, et il faut le dire aussi, qui ont accompli de nombreux miracles, n'est-ce pas, et des prodiges pour attester de la puissance de l'Évangile et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils étaient revêtus d'une autorité spéciale donnée par le Christ pour accomplir le ministère que le Seigneur leur a confié, communiquer son message au monde entier, établir les bases, le fondement de l'Église chrétienne dans ce monde. Ces hommes-là donc ont joué un rôle essentiel, un rôle fondateur. Ils ont mis en branle, n'est-ce pas, une dynamique planétaire que personne, même pas le diable, ne pourra jamais arrêter, l'Église de Jésus-Christ. L'importance de ces hommes était telle que Jean nous dit dans l'Apocalypse que la muraille de la nouvelle Jérusalem aura 12 fondements, 12 fondements sur lesquels se trouvent 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau, je cite, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Le Nouveau Testament présente également un apôtre surnuméraire, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comme les 12, n'est-ce pas, a été choisi aussi par le Seigneur. Sauf que la conversion de l'apôtre Paul s'est opérée après la Pentecôte. grâce, vous connaissez sans doute l'histoire, n'est-ce pas, grâce à une apparition du Seigneur lorsque l'apôtre Paul se trouvait, à l'époque, Saul de Tarse, n'est-ce pas, se trouvait sur la route de Damas pour persécuter les chrétiens. Et donc le Seigneur est apparu à cet homme et l'a mis à part, l'a choisi comme apôtre pour les non-juifs, pour prêcher l'évangile aux non-juifs, les instruire dans la foi et la vérité. Et même si son apostolat a souvent été mis en doute, n'est-ce pas, par certains à l'époque, on sait combien cet homme de Dieu a joué un rôle fondamental pour le christianisme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, s'il y a des églises à l'extérieur de la Palestine, n'est-ce pas, on le doit beaucoup à l'apôtre Paul. Cet homme a été puissamment utilisé pour l'implantation d'églises un peu partout, mais aussi pour leur croissance et leur affermissement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de croissance d'église, d'édification, on va souvent lire les paroles inspirées de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous encourager à aller de l'avant. Il a été un grand serviteur de la parole qui a lui aussi joué un rôle fondamental pour l'établissement du christianisme et son expansion au premier siècle. Je pense que la plupart d'entre nous seront d'accord d'admettre qu'en ce sens particulier et unique, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Les apôtres n'existent plus aujourd'hui et que la doctrine et l'autorité des apôtres, l'autorité apostolique, n'est-ce pas, se trouve aujourd'hui dans les textes bibliques, dans la Bible, la parole de Dieu qu'ils nous ont laissée. Si ces serviteurs de la parole ont joué un rôle fondamental au début, ils le jouent toujours aujourd'hui, ils le jouent de nos jours, parce que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont prêché, c'est dans la parole de Dieu. Nous avons accès à leur enseignement, n'est-ce pas? Et l'essentiel de ce que nous devons croire, l'essentiel de ce que nous devons connaître, l'essentiel de ce que nous devons vivre au sein de nos églises, nous le trouvons dans la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ a différents visages. Il y a 2000 ans d'histoire d'Église, n'est-ce pas? Et donc, l'Église, parfois, a pris des visages et parfois même des directions différentes. Et parfois, il y a des gens qui s'interrogent, mais quels critères pour choisir une église? Quels critères? Il y a tellement d'églises différentes les unes des autres. Dans quelle église faut-il que je m'intègre? À ceux qui me posent la question, je réponds tout simplement, si pour vous la fidélité au projet initial de Dieu pour son église, si pour vous la fidélité à l'évangile compte, à l'évangile tel qu'il a été annoncé par le Christ et les apôtres, il suffit dans ce cas-là de se référer aux écrits qu'ils nous ont laissés, n'est-ce pas, de revenir à la parole de Dieu et de voir quelle église reste fidèle à cet enseignement des apôtres, quelle église suit les enseignements de Christ et des apôtres. D'ailleurs, nous lisons dans les Actes des apôtres que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient donc des chrétiens apostoliques. C'est ce que nous devons être aujourd'hui aussi, nous les chrétiens, mais nous aussi en tant qu'Église. Être des chrétiens, être une Église apostolique. Choisissons donc une Église qui persévère dans l'enseignement des apôtres. Au cours des siècles, il y a eu débat sur cette notion d'apostolicité. Vous savez que l'Église issue de l'Empire romain, l'Église catholique, apostolique, romaine, affirmait, et je pense qu'elle affirme toujours, que l'apostolicité de l'Église vient de la succession des apôtres, depuis Pierre jusqu'au dernier pape. Bien sûr, je respecte nos frères catholiques, mais je pense que cette chaîne, cette succession a été rompue à plusieurs reprises au cours de l'histoire, n'est-ce pas ? Et personnellement, je ne pense pas que la succession apostolique soit gage d'apostolicité. Pour nous, l'apostolicité de l'Église vient tout simplement de la fidélité, de notre fidélité à l'enseignement des apôtres, aux enseignements des apôtres. L'Église est apostolique si elle repose sur l'enseignement des apôtres. L'Église est apostolique si elle reste fidèle, si elle reste attachée à cet enseignement qui est gage donc de l'apostolicité. Elle est apostolique quand elle vit de la foi des apôtres, dont le témoignage se trouve dans l'Écriture. Elle est apostolique quand elle se laisse diriger par le Saint-Esprit, comme les apôtres se sont laissés diriger par le Saint-Esprit. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette notion d'apostolicité et sur ce premier terme employé par l'apôtre Paul. Le Seigneur a donné à l'Église des apôtres. Donc je pense qu'il parle de ces apôtres avec un grand A, ceux qui ont suivi le Christ, qui ont été appelés par lui. Ensuite, il parle des prophètes, et nous allons nous arrêter ce matin à ce ministère des prophètes. Il faut d'abord dire qu'un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Or, je pense que notre compréhension de ce mot et de ce ministère aujourd'hui est brouillée par la signification moderne que l'on donne à ce mot « prophète ». Car on pense tout de suite à des prédictions. Un prophète, c'est quelqu'un qui prédit des choses, qui prédit des événements qui vont venir, des événements futurs. Alors que quand on regarde dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il n'y a que trois cas où une prophétie est clairement une prédiction. Ce sont les annonces par Agabus, dans Actes chapitre 11, d'une famine, et au chapitre 21 de la capture de Paul à Jérusalem, toujours par Agabus. Et la troisième prophétie, c'est celle de Paul, l'apôtre Paul, au sujet des Juifs et des Gentils, au chapitre 28, où l'apôtre Paul dit, pour résumer, que les non-Juifs s'ouvriront eux aussi au message de l'Évangile. Dans divers autres passages qui parlent de prophétie, il n'y a la moindre allusion à des prédictions. Alors ça ne veut pas dire que les prophètes ne prédisent pas, mais ce n'est que ça. Ce n'est pas uniquement de la prédiction. C'est beaucoup plus que ça. Alors, très rapidement, dans Actes chapitre 15, verset 32, ce passage nous dit que Jude et Silas, qui avaient le don de prophétie, je cite, « parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les affermir dans la foi ». Parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les affermir dans la foi. Les deux prophètes. 1 Corinthiens 14, je pense, détermine ce qu'est le don de prophétie dans le Nouveau Testament. Je lis, verset 3, « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Et au verset 31, « Car vous pouvez tous prophétiser. » Vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. On voit ici dans ces passages que le don de prophétie qu'ont certaines personnes, certains de nos frères, n'est-ce pas, dans la communauté, c'est le don d'apporter, je dirais, des messages inspirés de la part de Dieu, mais des messages qui édifient les autres. Non pas des messages qui détruisent, qui abattent, n'est-ce pas? Des messages qui édifient, des messages qui exhortent, des messages, selon ces textes que je viens de lire, des messages qui consolent, des messages qui instruisent. Ce sont donc des chrétiens qui sont capables, je pense, de discerner les situations, de discerner les besoins des uns et des autres, les besoins de leurs frères et sœurs en Christ, et qui sont capables d'appliquer la parole de Dieu à des situations concrètes vécues dans l'Assemblée, à des besoins concrets. Ce don a été très utile au début de l'Église chrétienne, et je pense qu'il est encore, peut-être pas de la même manière, je ne sais pas, mais il est toujours utile au sein de l'Église, car il contribue à l'édification de l'Église. Et s'il contribue à l'édification de l'Église, il est bien sûr utile à celle-ci. Et en étudiant cette question, je me suis dit que finalement, si on comprend bien les textes bibliques, la prophétie est très proche de l'enseignement. Très proche de l'enseignement. Il permet la prise de conscience de la façon dont la parole de Dieu s'applique à la vie des uns et des autres dans la communauté. Ceci dit, on ne peut ni enseigner ni prophétiser, nous dit l'apôtre Pierre, sans l'aide du Saint-Esprit en nous. Sans l'aide du Saint-Esprit en nous. Et je rappelle que les prophètes de l'Ancien Testament, bon ici on parle des prophètes du Nouveau Testament, mais les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des gens qui avaient les Écritures comme fondement de leur déclaration. Ils étudiaient les Écritures. Il y avait des écoles de prophètes à l'époque d'Élisée et je pense même de Samuel, à l'époque d'Ésaïe. Daniel, dans sa prophétie, témoigne qu'il étudiait le prophète Jérémie. Donc les prophètes, eux aussi, étudiaient la parole de Dieu pour pouvoir après dire des choses qui édifient la communauté. Et une chose qui attire mon attention dans Actes chapitre 15, c'est que ces prophètes dont parle le verset 32, donc Jude et Silas, qui ont, je le répète, encouragé et fortifié leurs frères et sœurs dans la foi, ont été choisis par les apôtres et par les responsables de l'Église, lisons-nous au verset 22. Donc ce n'était pas n'importe qui, c'était des chrétiens qui jouissaient d'une certaine renommée au sein de la communauté, qui avaient fait leur preuve au sein de l'Église, des chrétiens qui avaient une parole inspirée, reconnue par les autres, n'est-ce pas? Une parole inspirée de la part de Dieu. Et donc, ils ont été choisis pour exercer ce ministère. Donc, si j'ai parlé des apôtres avec un grand P, j'aurais tendance à dire aussi que les apôtres, les prophètes avec un grand P, faisaient également partie du fondement de l'Église, car ils ont été, avec les apôtres, les premiers enseignants de l'Église. Les premiers enseignants de l'Église. Dieu vous a intégré, dit l'apôtre Paul, à l'édifice qu'il construit sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, et dont Jésus-Christ est lui-même la pierre principale. Avec les apôtres, donc, il donnait une parole inspirée qui a établi une fois pour toutes la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui et que nous pouvons lire. Comme les apôtres, les prophètes ont servi une intention spécifique dans le fondement de l'Église. Je dirais qu'encore de nos jours, le ministère de prophète est reconnu par son emploi de la parole de Dieu. Par son emploi de la parole de Dieu. Nous avons dans nos églises des frères et sœurs qui, je dirais, par leur vie de communion avec le Seigneur, leur vie de prière, leur connaissance approfondie des Écritures, peuvent avoir une parole d'édification, une parole inspirée d'édification. Ils peuvent apporter une compréhension renouvelée de la parole de Dieu appliquée de manière concrète à nos vies. Et je pense que cela existe dans notre Église et dans les Églises en général. Ces frères ont peut-être aussi le don de discernement pour voir les situations et savoir quelle parole de la Bible appliquer à telle ou telle situation. Ils sont capables, ils ont reçu ce don d'apporter une parole adaptée aux diverses situations. Parole qui n'est pas forcément, comme je disais tout à l'heure, une parole, une prédiction de l'avenir. Je vous rappelle que Jean-Baptiste, qui est considéré donc le plus grand prophète, n'est-ce pas? Son message était un message de repentance. Un message de repentance en vue de la venue du royaume de Dieu. Alors peut-être que parfois le Seigneur met une parole dans votre bouche, parole qui a été méditée avant ou pas nécessairement, mais une parole qu'il vous pousse à la transmettre à d'autres. Je pense que nous pouvons le faire, n'est-ce pas, si cette parole est une parole qui contribue à l'édification des uns et des autres, si c'est une parole qui exhorte, qui console, qui édifie les autres. Ceci dit, l'apôtre Paul dit que la parole prophétique doit être jugée dans la communauté. Il le dit dans la lettre aux Corinthiens, mais je vais juste citer, je ne vais pas citer tous les textes, mais juste ce texte d'1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, où il dit « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer, ne méprisez pas les messages qu'il inspire. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. » Donc on voit que dans ce texte et dans d'autres, l'apôtre Paul fait appel au discernement critique, je dirais, de ce que les uns et les autres disent dans l'Église, parce que il faut l'avouer, tout ce qui est dit dans une Église ne vient pas nécessairement de la part du Seigneur, hélas, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Tout ce qui est dit ne vient pas nécessairement de la part du Seigneur. Nous devons être attentifs à ce que ce qui est dit soit une parole du Seigneur pour chacun de nous. Jésus nous a averti que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, nous dit-il dans l'évangile de Matthieu. Donc cela veut dire que nous devons rester vigilants. Rester vigilants. Le ministère prophétique dans l'Église, quelle qu'en soit la forme, ne peut en aucun cas contredire, altérer ou compléter l'Écriture sacrée, ni se substituer à elle, parce que dans la Bible, nous avons l'essentiel de ce que nous devons savoir, de ce que nous devons croire. L'apôtre Paul recommande à ceux qui apportent des messages prophétiques de le faire en accord avec l'analogie de la foi. Romains chapitre 12, verset 6. En accord avec l'analogie de la foi. Ou comme dit notre traduction, conformément à notre foi commune. Conformément à notre foi commune. Christ a donné à l'Église, dit l'apôtre Paul, des apôtres et des prophètes. Voilà donc deux dons, deux ministères fondamentaux que le Seigneur a accordé à son Église pour que celle-ci vive, que celle-ci s'épanouisse, que celle-ci grandisse. Ces hommes-là ont joué un rôle essentiel, un rôle fondateur. Ils ont été les instruments de Dieu pour révéler des choses divines, n'est-ce pas, à l'homme en vue de la formation et de l'édification de l'Église. Dieu s'est servi d'eux pour transmettre la révélation de son dessein éternel. Cette révélation, nous l'avons aujourd'hui dans les Écritures, que nous pouvons méditer. Leurs paroles, leurs écrits inspirés, leurs réponses à des situations les plus variées, des situations diverses et parfois compliquées, nous les trouvons dans la parole de Dieu, qui doit être notre seule et unique règle de foi et de pratique. Avec Jésus-Christ comme la pierre principale, les apôtres et les prophètes constituent le fondement de l'Église, nous dit l'apôtre Paul. Que le Seigneur nous aide et nous permette de le remercier pour ces piliers qu'il a donnés à l'Église et qui sont toujours des piliers dans l'Église, qui étaient là dès le départ, dès le début de l'Église et qui ont créé donc les conditions nécessaires pour que l'Église existe et pour qu'elle s'épanouisse. Nous allons prier le Seigneur.